Magma.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission. Un grand chef est de passage en Suisse romande pendant quelques jours. C'est l'Américain John Nelson qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Bienvenue. Merci. À vous. Vous êtes là pour deux concerts qui auront lieu à Genève, à la cathédrale Saint-Pierre, puis à la cathédrale de Lausanne, respectivement le 8 et le 11 mars. La Passion, selon Saint-Jean, de Jean-Sébastien Bach, avec l'Orchestre de Chambre de Genève, avec également le chœur Laudate Deum en version chœur de chambre. On va se plonger évidemment avec vous dans cette magnifique partition. John Nelson, on est très content de vous accueillir quelques instants.
Merci.
Aujourd'hui. Nicolas Julliard, vous êtes là, bonjour.
Oui, bonjour Yves.
On va faire du bruit avec vous, c'est ça?
Oui, bruit, c'est le thème d'une exposition à voir en ce moment à Genève, à la Villa du Toit. C'est une exposition conçue par Visarte, l'association des artistes genevois, qui a donc mandaté les artistes pour qu'ils créent des pièces autour de ce thème du bruit. 20 travaux sont exposés en ce moment à la Villa du Toit et on découvre comme ça comment l'art visuel peut s'inspirer de ce thème, a priori peu visuel, du bruit, pour créer toutes sortes de choses.
On fera également aujourd'hui un tour par le musée d'art et d'histoire de Genève avec un concert qui a lieu le 8 mars. Et ce sera l'occasion de découvrir en fait en musique des grandes œuvres des collections du musée. C'est une collaboration avec l'ensemble Contrechamp. On entendra Isabelle Burkhalter qui est médiatrice culturelle au musée d'art et d'histoire. Elle sera au micro de Sérène Regard. Et puis on fera également encore un coup de téléphone à Agnès Léveillé qui est en ce moment même en train de suivre la fin de la conférence de presse de l'Orchestre de la Suisse romande. Donc on saura tout sur la prochaine saison dans le courant de l'émission. On attend son signal en fait pour vous dire la vérité. Au moment où c'est fini, eh bien on pourra lui parler un peu, on en saura plus sur la prochaine saison. C'est Sacha Unger qui réalise Magma aujourd'hui. Soyez toutes et tous les bienvenus. Voilà, John Nelson, on va devoir arrêter d'écouter cette musique, on était bien pourtant avec des magnifiques musiques que vous avez enregistrées ici, donc extrait Sist Vollbracht de la Saint-Jean et de Bach, avec magnifique voix de la contralto Stéphanie Blythe et l'ensemble orchestral de Paris, donc sous votre direction, extrait d'un disque qui est paru chez Archive. Vous vous souvenez de cet enregistrement?
Bien sûr, quand elle était très jeune, au début de la carrière, et elle a chanté avec moi beaucoup de Bach, mais she became a Wagnerian.
Elle est devenue Wagnerienne depuis.
Wagnerienne.
Et donc, quand on devient Wagnerien, on perd un peu de la façon de chanter.
Oui, je crois. On perd la discipline que la musique baroque demande.
La discipline. Ouais. Et on commence par cet extrait soliste, évidemment beaucoup de chœur dans la Saint-Jean, mais finalement de commencer par justement une voix solo, c'est peut-être assez juste pour la Saint-Jean, parce qu'il y a beaucoup de personnages et qu'on est ici devant une œuvre qui a vraiment des aspects vraiment théâtraux, quoi. Il y a une action.
Il y a les deux passions, le Saint Matthieu et le Saint-Jean sont très très différents. Et le Saint-Jean est presque un opéra. Parce que dans l'évangile de Jean, les Juifs, ça c'est un sujet un peu délicat. Hein?
On parle de musique ici, mais il n'y a pas de souci.
Non, parce qu'à notre temps, il y a l'histoire de la guerre mondiale avec toutes les choses juives. It's a very delicate subject for Jewish people to do this piece. Vous me comprenez?
Oui, c'est un sujet délicat à aborder pour le peuple juif, en fait.
Mais il y a Suisse, il y a Suisse. Il y a Américain, il y a Américain. Chaque peuple, chaque type de gens, il y a de mauvaises personnes et de bonnes personnes, hein? Partout. Mm-hmm. Oui. Alors, il y a juifs qui that behaved very badly. Mm-hmm. Oui. Dans même mon pays aussi, nous avons une histoire très, très mauvaise. Et il faut connaître ça. Il faut être dedans. Alors, quand je dirige le Saint-Jean, je suis comme chef d'opéra.
Et c'est exactement ce que je voulais vous demander, justement, John Nelson, avec le magnifique parcours que vous avez à l'opéra depuis de nombreuses années. Donc, vous servez de cette expertise pour interpréter la Saint-Jean comme un opéra? Pas tout à fait, quand même.
Non, comme opéra, pourquoi pas, oui. Simon Rattle et comme Peter Sellers, les deux ont présenté le Saint Matthieu comme opéra, avec tous par cœur, tous en jouant, et c'était magnifique. Alors, on va faire un oratorio, mais on va traiter. You're going to treat the music in a very extremely dramatic way.
Traiter la musique de manière
dramatique.
Je crois qu'on
va entendre un peu plus tard une interprétation de John Elliott Gardner. Okay? Je viens d'écouter ça et c'est trop religieux, trop propre. Et peut-être à l'époque de Bach, ils ont chanté ça comme musique religieuse. Mais pour moi, maintenant, je voudrais vraiment lancer la musique comme opéra.
Vous venez de parler de cet extrait, on va l'écouter. Quelques minutes de la version donc de Gardiner.
Oh, müden antworteten ihm:
Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz soll er sterben.
Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz soll er sterben.
Extrait donc de la Saint-Jean ici par Gardiner et les réactions de John Nelson dans le studio de la radio. C'est le texte qui est à l'origine. C'est vrai que si on ne le comprend pas, on aurait l'impression qu'on est ici, comme vous me le disiez hors micro, qu'on est dans une ambiance tout à fait majestueuse, alors que pas du tout.
Pas du tout ça. C'est horrible. C'est sauvage.
On parle
c'est
de crucifixion dans ce qu'on vient d'entendre.
Pardon?
C'est la crucifixion qui est évoquée dans ce qu'on vient d'entendre.
Oui, bien sûr. Il faut crucifier. Ah oui. Quelle horreur, ça! Crucifie, crucifie, crucifie! Ça doit sonner dur et mauvais et agressif et dramatique à l'extrême. J'ai beaucoup de respect pour lui. Je connais John Eliot. Il était presque un ami. Mais il est britannique. C'est dit britannique, ok.
On a tout dit en disant ça.
Et il est dedans la musique de Bach. Il a enregistré tout, mais il a enregistré peu d'opéra. Il n'a pas l'expérience de l'opéra. Et ça me manque.
Je comprends. J'ai parlé il y a quelques semaines avec Michel Corbeau de la Saint-Jean, il l'a présenté également, et il avait un discours qui s'apparentait un peu au vôtre, d'ailleurs, John Nelson. Cette volonté justement d'y aller avec la dimension théâtrale et opératique, finalement une mise en scène de la Saint-Jean, ça ne vous dérangerait pas, John Nelson ?
Non, il y a... Mais on peut jouer la musique de Bach en accordion, dans le marimba, dans la guitare, n'importe quoi, parce que c'est musique pour tout le monde. On peut chanter ça comme jazz. Alors, c'est dommage de interpréter tout de le même caractère, même the same way,
de la même façon. Hein? Ouais.
C'est très intéressant de trouver des interprétations variées. Ça, c'est la joie de la musique vivant. Et c'est une catastrophe aujourd'hui que très peu listeners...
D'auditeurs.
Auditeurs vont au concert. Oui, parce qu'on reste à la maison, on a tout le disque, on a le...
DVD,
on peut trouver tout à la maison. Mais la musique vivante, c'est toujours différent. Et ça, c'est la joie, je crois.
Et j'ai lu d'ailleurs une interview que vous avez donnée il y a quelques temps. Vous parliez justement de la préparation, de la discipline qu'il fallait avoir. Donc le travail était indispensable. Et puis ensuite, tout se passe finalement le soir du concert. Il y a des énergies particulières dans chaque concert. Moi, j'aimerais savoir pour vous, concrètement, dans une soirée, comment ça se passe, ça? C'est-à-dire que vous avez préparé l'œuvre très bien avec le chœur, avec l'orchestre, et puis le soir, vous dites, il faut laisser l'énergie du moment. On est quand même devant une partition, on sait quand même où on va. C'est dans quoi que ça s'exprime, cette peut-être improvisation qu'il peut y avoir une fois que le travail a vraiment été accompli?
C'est une bonne question. C'est très délicat, ça.
C'est délicat, ouais, justement.
Parce qu'il faut laisser quelque chose pour la performance. Avec le soliste, on peut laisser. Avec le chœur ou avec l'orchestre, il faut avoir une discipline, il faut avoir une connexion entre les répétitions. Mais j'aime beaucoup avoir la flexibilité.
La souplesse. Éventuellement.
Oui, avec le soliste. Nous allons faire le Saint-Jean avec deux évangélistes, très différents les deux. Et j'aime ça, pourquoi pas? Et il faut être honnête à sa personnalité. Ce n'est pas possible d'imposer tout sur le soliste. Les solistes sont solistes, sont individuels. Il faut laisser un peu de libre. Mais le chœur et l'orchestre, c'est autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il faut avoir un ensemble parfaitement connecté.
Unis comme ça, oui. Ensemble, John Nelson, d'ailleurs, vous avez déjà répété un peu avec l'orchestre, avec le chœur, Laudate Deum. Oui. Cet après-midi, je crois que c'est la première répétition avec l'orchestre. Comment est-ce qu'ils sont? C'est les chanteurs, vous avez déjà travaillé avec eux. Il y a le courant passe bien, vous êtes assez content du travail accompli pour l'instant.
Ok, hier soir, nous avons eu un petit concert dans une église avec des solistes qui sont pas tout à fait professionnels, pas encore, jeunes. Alors, nous avons le privilège de travailler avec deux types de solistes. Et je trouve ça intéressant.
Quel type de chef êtes-vous, John Nelson? Parce qu'on comprend bien qu'il faut que ça soit construit. Est-ce que vous êtes un chef également qui... imposé? Est-ce que vous, il y a des côtés, est-ce que vous avez une autorité de chef d'orchestre avec les musiciens, avec le chœur? Parce que on est dans des phases de transition, je reçois d'autres chefs, des fois de la jeune génération, qui sont très ouverts, comme ça, aux idées que les musiciens peuvent amener. Voilà. J'aimerais savoir dans quel type de chef vous considérez être John Nelson par rapport à vos intentions.
Dans mon jeunesse, j'ai eu deux maestro idéal. Un, Georges Zell, oui, qui était un dictateur.
Dictateur. Oui. On peut y aller.
Tout parfaitement ensemble et pas de différence entre un concert et un autre concert. L'autre était Giulini, Carlo Maria Giulini, à l'autre côté complètement. Très libre, très warm, chaleureux, très très chaleureux. Et il a laissé avec les gestes, il a donné une liberté aux musiciens. George Sell, l'autre chose. Alors j'ai les deux, et dans mon peut-être première partie de ma carrière, j'étais plus George Sell.
Vous deveniez un peu plus Giulini avec les années.
Maintenant, j'ai changé beaucoup pour raisons variées.
Notamment, vous êtes souvent en voyage. Disons, depuis quelques temps maintenant, vous êtes un chef plutôt voyageur. Vous avez des engagements.
Je voyage tout le temps.
Donc, vous n'avez pas une résidence de plusieurs années.
Non, non.
Donc le travail se fait différemment, j'imagine.
Oui, bien sûr. Mais je trouve que le musicien, si on peut donner l'autorité un peu à eux, they come to you, they open up to you.
Ils s'ouvrent à vous,
oui. Oui. Et ils sont beaucoup plus contents si on partage de l'interprétation. Et maintenant, à cet âge, cet vieux âge, à moi, je suis plutôt, j'espère, plutôt comme Giulini.
John Nelson, notre invité aujourd'hui dans Magma à l'occasion des concerts qu'il va donner. Donc le 8 mars prochain à Genève, le 11 à la cathédrale de Lausanne, c'est à la cathédrale de Genève également le 8 mars, la Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach avec l'orchestre de chambre de Genève, le Laudate Deum en version chœur de chambre. J'ai regardé dans votre discographie les derniers projets que vous avez fait depuis quelques années, on va dire. On a la Saint-Mathieu de Bach, on a la création de Haydn, on a la Missa Solemniste de Beethoven. Vous êtes dans une période comme ça, musique sacrée, dans les enregistrements notamment, John Nelson.
Ça, c'est ma musique préférée.
Ça a toujours été votre musique préférée.
Je voudrais mourir sur le podium en dirigeant le Saint-Mathieu.
C'est ça.
Ça, c'est pour moi l'idéal. Puis-je dire un petit mot?
Mais je vous en prie, vous êtes là pour ça.
15 secondes. Sur le travail du cœur. Parce que le chœur ici, le Laudate Deum, est un chœur amateur. Okay? C'est-à-dire musicien qui aime.
Amateur, c'est ça.
Amateur,
que ça veut dire,
qui aime la musique. Et je suis très, très impressionné avec son travail. Et le travail de Catherine Bernet, qui est la chef
qui a préparé, donc le
terrain, qui a préparé ça, parce que le Saint-Jean est tellement difficile, beaucoup plus difficile que le Saint-Mathieu, le musique de Bach le plus difficile, très angulaire, c'est bien dit,
mm-hmm.
angular,
avec beaucoup de bruit, probablement,
très très difficile, très dissonant, et j'étais vraiment surpris avec le travail de le chœur. Je vous félicite sur la radio.
Ah ben magnifique, ils l'auront tous entendu. Je vous remercie beaucoup, John Nelson, pour cette visite dans notre émission.
C'est mon plaisir.
Et donc, je rappelle, le 8 mars à Genève, le 11 mars à Lausanne, dans les cathédrales respectives de ces deux belles villes de Suisse romande, la Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach, avec John Nelson à la tête du Laudate Deum en chœur de chambre, avec l'orchestre de chambre de Genève. On va se quitter avec un autre extrait de ce disque qui était paru chez Archive il y a quelques années, consacré à des airs de Handel et de Bach, extrait des Passions. En l'occurrence, ici, je vais me concentrer pour prononcer allemand comme il faut, von den Stricken meiner Sünden. Merci beaucoup, John Nelson.
C'est moi.
La voix donc ici de Stephanie Blythe, contralto avec l'orchestre de chambre, l'ensemble orchestral de Paris, excusez-moi, sous la direction de John Nelson, extrait de La Passion selon Saint-Jean, donc qui sera représenté deux fois les 8 et 11 mars à Genève et à Lausanne par le Laudate Deum en chœur de chambre et l'orchestre de chambre de Genève sous la direction du maestro John Nelson qui nous a fait l'honneur d'une visite aujourd'hui. Le nom des solistes encore, Laurence Guillot, Anne-Bess Solvang, Valerio Contaldo, Stéphane Morschek, Stéphane MacLeod et Bertrand Grunenwald. Vous écoutez Espace 2, il est 12h33. On va partir maintenant au musée d'art et d'histoire de Genève qui collabore avec l'ensemble Contrechamp. Ça se passe le 8 mars. Et c'est l'occasion donc de découvrir en musique des grandes œuvres de la collection du musée. C'est une visite musicale. Ça s'intitule Humeur en peinture et en musique. Ça sera avec le tromboniste Jean-Marc Daviel et percussionniste Sébastien Cordier. Donc c'est en deux parties. À 11h, concert dans la salle des armures. Et puis à 14h, le public est invité donc à explorer ses collections en musique. On écoute Sérène Regard qui était allée à la rencontre d'Isabelle Bourg-Calter, qui est médiatrice culturelle au musée d'art et d'histoire de Genève.
Ça fait plusieurs années que le musée d'art et d'histoire entretient une collaboration régulière avec l'ensemble Contrechamp autour de plusieurs concerts de chambre de leur saison. Ce sont des concerts qui ont lieu au musée et qui ont généralement une thématique qui fait écho aux collections du musée. C'est pour ça qu'ils ont lieu au musée. On peut changer de salle en fonction de la thématique. Et ils sont généralement accompagnés de moments d'accueil pour le public avant ou après le concert qui permettent d'en prolonger le thème à travers notamment des visites commentées en musique. C'est ce qui va se passer dimanche après-midi, donc suite au concert. Il s'agit d'une matinée en musique avec un concert qui s'appelle L'Irascible, puisque la thématique des concerts de chambre de cette année de l'ensemble Contrechamp, c'est la théorie des humeurs. Donc là, on est dans une humeur un peu négative, colérique, électrique. Et l'après-midi, on va faire une visite commentée où on va explorer cette même thématique dans les œuvres du musée, entrecoupées de pièces musicales qui sont en fait des reprises de ce qui aura été entendu le matin.
Isabelle Bourg-Calter, dans le vocabulaire même de la peinture et de la musique, on retrouve une caractéristique commune, c'est la couleur. Alors, comment est-ce qu'on met en relation une couleur musicale avec un art plastique comme la peinture ?
Parler de couleur en peinture, ça paraît évident à tout le monde. On ne se pose même pas la question. En musique, ça l'est peut-être un peu moins. Donc on a eu envie, avec l'ensemble Contrechamp, d'explorer cette thématique à deux voix, la voix picturale et la voix musicale, à travers la création d'une proposition pour les publics. J'utilise volontairement le pluriel, puisque c'est quelque chose qui est né dans le cadre d'un dimanche thématique, où on avait un concert sur le thème de la couleur, et puis où on a construit d'autres propositions pour différents types de publics dans nos collections sur ce thème. Et puis, on l'a ensuite décliné pour les écoles, dans le cadre du programme d'éveil culturel École et Culture, donc pour les classes primaires du canton de Genève. C'est devenu ensuite un module famille. C'est vraiment quelque chose qui, à travers un même thème, a parlé à des gens de 6 à 106 ans. On propose ce parcours en observant des tableaux, en regardant comment le peintre a fait l'usage de la couleur. Et on croise ça avec l'utilisation sur le plan musical. On s'aperçoit que créer une ambiance, on va aussi jouer, les compositeurs, surtout les compositeurs contemporains, vont beaucoup jouer sur les possibilités expressives et sur les différents timbres, les différentes couleurs d'un instrument de musique. Ça va contribuer à créer une ambiance, attirer l'attention sur un détail. Quand on joue, de la clarinette et que tout d'un coup on utilise l'effet du slap, bien on va avoir quelque chose qui martèle, qui attire, qui ressort de la ligne musicale, de la même manière qu'un peintre, par exemple, répartira des petites touches de rouge pour conduire le regard à l'intérieur d'un tableau. Et ça permet de regarder la peinture autrement. D'où l'intérêt aussi de faire se croiser ces deux arts et ce double discours qui est de dire qu'est-ce que ça signifie au niveau musique et qu'est-ce que ça signifie au niveau peinture.
Isabelle Bourg-Calter, solliciter Louis, un sens qui est habituellement inactif dans une exposition de peinture, quel profit est-ce qu'on en retire ?
Eh bien, on va avoir une acuité, une perception qui va être toute différente. On va avoir aussi un phénomène synesthésique, un phénomène de correspondance qui va faire que les couleurs et les sons se répondent, hein, pour parodier Baudelaire, et qui va mettre le regardeur ou l'écouteur dans un état de disponibilité sensorielle qu'il n'aurait pas autrement.
Isabelle Burkhalter, vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on ouvre le micro, que cette collaboration entre le Musée d'Art et d'Histoire et l'ensemble Contrechamps, c'était aussi une possibilité, un gain, pour pouvoir drainer des publics différents. Peut-être un public habitué plutôt à la peinture, qui tout d'un coup redécouvre la musique, et inversement.
C'est toujours le cas, c'est aussi l'idée d'organiser ce type de proposition pour les publics. C'est pour ça qu'on est ravis quand des musiciens viennent jouer au musée. Ça nous permet aussi de développer des rencontres sur des axes thématiques qu'on n'aurait peut-être pas imaginé tout seul. Là, la question de la théorie des humeurs, par exemple, quand Brice Pozel, directeur artistique de Contrechamps, m'a proposé de travailler sur ce thème, j'avais jamais envisagé de l'aborder dans les collections. Ça a été une idée assez extraordinaire parce qu'on s'aperçoit qu'on peut tisser des liens qui nous permettent d'aller des collections archéologiques aux collections Beaux-Arts à travers cette même grille de lecture et qui finalement élargissent tout ce qu'on peut aborder en termes de questions fondamentales dans un musée. Et le Musée d'Art et d'Histoire, avec ses collections encyclopédiques, pluridisciplinaires, qui permettent vraiment de dérouler des fils sur une chronologie extrêmement vaste, on a 15 000 ans qui séparent l'objet le plus ancien de l'objet le plus récent dans le musée, vont vraiment permettre de tisser des liens à travers des problématiques culturelles, à travers des objets, mais aussi à travers des arts. Alors là, on parle de l'exemple de la musique, mais finalement, la même réflexion est valable pour la danse, pour la poésie, pour la littérature, pour le théâtre.
Isabelle Burkhalter, j'ai relevé Géricault, Fuseli, Bruegel ou encore Valeton, ce sont les noms d'artistes exposés et qui seront illustrés par la musique. Quand on propose un aussi large spectre artistique, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer? Des difficultés justement pédagogiques.
Si on devait s'en tenir strictement à un parcours d'histoire de l'art, on aurait finalement peut-être plus de difficultés que si on prend un petit peu de distance et qu'on travaille avec une approche thématique, parce que les liens qu'on va tisser entre les œuvres, entre les époques, et entre ce que ces œuvres nous renvoient et les échos que ces différentes époques vont avoir par rapport à notre actualité, par rapport à notre vécu, vont peut-être employer des chemins un peu détournés, mais vont finalement nous permettre de retomber beaucoup mieux sur nos pattes. Les artistes qui sont cités, on pourrait tout à fait imaginer d'autres liens, un parcours pour les réunir, mais finalement d'aller regarder à l'extérieur du problème pour mieux y revenir nous donne aussi beaucoup plus de liberté et nous permet d'imaginer des liens auxquels on n'avait pas pensé. Je citais l'exemple de cette théorie des humeurs. Pour donner quelques exemples, la théorie des humeurs, c'est quelque chose qui naît dans l'Antiquité. C'est quelque chose qui va être notamment véhiculé par Hippocrate, donc sur le plan médical. Et puis là, on va commencer la visite en musique de l'après-midi autour de la figure d'Achille. On va regarder de près une statue de l'époque hellénistique qui représente ce fameux héros de la guerre de Troie, qui commence par ces mots « chante muse la colère d'Achille ».
Thank you.
Isabelle Burkhalter, est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'ambiance? Vous parliez d'ambiance tout à l'heure, d'ambiance picturale, d'ambiance musicale également. Est-ce que vous avez un exemple d'ambiance dans laquelle on peut plonger, par exemple, lors de cette visite au musée d'art et d'histoire, accompagné par des musiciens de l'ensemble Contrechamps?
C'est par exemple de regarder un tableau assez énigmatique des collections du musée d'art et d'histoire, le portrait de l'homme aux luttes. Si on l'appelle comme ça, c'est parce qu'on y voit un homme, qu'il y a un luth avec lui, il n'en joue pas, il est posé sur une table devant lui. Et c'est un portrait qui a un format paysage, c'est suffisamment rare pour qu'on le signale. Et en fait, on a comme une nature morte qui s'invite dans le tableau où le personnage a visiblement son importance aussi. Donc déjà deux genres au niveau pictural qui vont coexister. Et ce personnage, dont on ignore l'identité, on ne connaît pas non plus l'artiste qui a réalisé le tableau. Et ce qui est intéressant, c'est que le personnage paraît être en prison et que le luth est un instrument qui est associé à la mélancolie. Une des quatre humeurs, hein, le tempérament mélancolique. On peut lui associer une musique qui correspond à son ambiance. Et je pense qu'on le regarde tout à fait différemment si on le regarde associé à de la musique ou si on le regarde simplement avec ses yeux, hein, puisqu'on parlait des correspondances et de l'acuité qu'on gagne en observation quand en plus on a les oreilles qui sont stimulées.
Séquenza 14 de Luciano Berio pour violoncelle solo pour illustrer donc les propos échangés avec Isabelle Burkhalter au micro de Sérène Regard. Je vous rappelle donc que ça se passe le 8 mars prochain au musée d'art et d'histoire avec dès 11h le concert des musiciens de l'ensemble Contrechamps intitulé L'Irascible et puis à partir de 14h la visite musicale sur les humeurs donc dans les beaux-arts et la musique. Merci Sérène Regard. Vous écoutez Espace 2, il est 12h45 avec vous Nicolas Julliard. On va partir à Genève.
On reste à
Genève. On rentre micro en main à la Villa du Toit. Quelques sons tirés ici donc de l'exposition Bruit qui est à voir et à entendre visiblement donc jusqu'au 22 mars à la Villa du Toit. Donc c'est dans le quartier du Petit Saconnet à Genève, Nicolas.
Et c'est une proposition de Visarte Genève, l'association des artistes visuels, s'est attelée à ce thème du bruit, un thème a priori plus sonore que visuel. Et pourtant, quand on parcourt les trois étages de cette magnifique Villa du Toit, comme je l'ai fait hier, on rencontre ça et là des sons, des bruits, des craquements d'une radio déréglée, des cris d'animaux, des bruits urbains ou encore le clapotis de l'eau dans une vidéo de Nina Chipov située à l'entrée et qui joue sur l'idée du dedans et du dehors en nous montrant la caméra qui oscille entre la surface d'un lac et sa profondeur, l'air libre et l'univers aquatique, le dehors, le dedans, le son et son absence. C'est tout cela qui est en jeu quand on s'intéresse au bruit de manière visuelle. Pour évoquer les enjeux de ce thème, j'ai rencontré sur place l'artiste Guy Schibler, président de Visarte Genève.
C'est un thème choisi par le comité de Visarte qui nous paraissait intéressant parce qu'il représentait un double défi. D'abord, évidemment, de devoir représenter de manière principalement visuelle un thème qui semble être a priori plutôt du côté du son. Et puis, d'autre part, d'avoir à s'occuper d'un thème a priori là aussi peu désirable, dont on pouvait se demander ce qu'il fallait en faire. Et le fait que ce soit quelque chose d'un tout petit peu étrange apportait une touche, à mon avis, provocante qui méritait d'être développée.
On voit toutes sortes de travaux dans cette exposition, Guy Schibler. Une chose qui m'a frappé d'emblée en visitant cette exposition, c'est une certaine unité dans le choix, par exemple, du noir et blanc. Beaucoup de travaux sont en noir et blanc, que ce soit du fusain ou d'autres supports. Un peu comme si ce thème du bruit inspirait cette idée de contraste fort ou bien, disons, de lien avec peut-être l'écriture, la partition.
Je pense que parmi les gens qui ont fait des projets, surtout parmi les gens qui ont été retenus, 20 artistes sur 53 propositions, il y en a pas mal qui se sont inspirés, lorsqu'il s'est agi de penser une traduction visuelle, de l'esprit des partitions ou de la mise en forme visuelle du son dans les appareils techniques comme les images des oscilloscopes, des sonogrammes, etc. Je pense que c'est ça qui, au départ, joue cet effet noir-blanc, qu'on trouve aussi dans d'autres pièces, dans les reproductions de sillons de vinyle. Pour le reste, il y a quand même quelques œuvres qui jouent de la couleur, mais c'est plutôt les œuvres qui utilisent le thème du bruit de manière métaphorique, en parlant des bruits du monde, des bruits des images, des bruits de la pléthore d'images, etc. Donc, qui ont repris des médias traditionnels, de quoi alimenter ce qui est souvent une critique.
Ce qui est intéressant aussi, Guy Schibler, c'est que ce thème du bruit, qui a été théorisé il y a un siècle à peu près par les futuristes italiens, qui étaient à la fois musiciens et aussi peintres, artistes visuels, continue à fasciner dans sa représentation. Je pense par exemple aux travaux d'Anne Pantillon dans cette exposition, qui sont des sortes de représentations du bruit. On essaye toujours de donner une forme visuelle à cette matière du bruit.
Oui, je pense que cette sorte d'inspiration par la musique bruitiste traverse plusieurs des travaux qui sont montrés ici. Et on pourrait dire qu'il y a aussi une sorte de parallèle entre le développement, je ne suis pas un spécialiste de cela, mais entre le développement de la présence du bruit dans la musique et un certain développement de l'art contemporain, notamment du ready-made du Champien. Les bruits qui apparaissent dans les pièces musicales, notamment quelques-unes de celles qui sont montrées ici, ces bruits, donc, sont souvent empruntés à la réalité. Peut-être qu'il y a-t-il quand même une différence entre le ready-made qui est en général montré comme tel et devient œuvre d'art dans sa singularité, et les bruits qui, eux, sont en général mixés, additionnés à des sons et fabriquent avec les autres sons une composition générale.
Composition musicale ici tirée justement de cette exposition Bruit, Nicolas Julliard, pour illustrer les propos que vous échangez avec l'artiste Guy Schibler.
Oui, c'est une suite de pièces musicales conçues par Stefano et Fabio Fagioni à partir d'une partition singulière, une suite de rythmes et de formes découpées dans différentes lamelles de bois, création de l'artiste Maude Sauvage. Et à partir de cette œuvre, exposée à la Villa du Toit, les frères Fagioni ont conçu une suite de pièces qui répondent à cette partition avec des musiques électroniques inspirées de la nature, de notre environnement. La forêt, la mer, la ville, le vent.
Avec des sons de nature, donc ce qui semble un peu être un des points communs hein, entre les différentes créations de ces artistes, Nicolas.
Bah oui, c'est vrai. Quand on s'intéresse à la question du bruit, les sons naturels sont une source d'inspiration, probablement parce qu'ils représentent à bien des égards un point de jonction entre le bruit et l'art, entre le son parasite et la création musicale. Impression confirmée sous les combles de la Villa du Toit avec une pièce conçue par Guy Schibler et Marie Schwab. On entre dans une petite pièce mansardée, des lutrins sont entreposés là, des partitions jonchent le sol, il règne un désordre qui pourrait être celui d'un environnement animal, et sur le mur, on découvre un film tourné dans un zoo, on y voit des singes en cage, de splendides gibbons, dont le cri se transforme petit à petit en musique. Guy Schibler.
Oui, j'étais absolument fasciné au zoo de Zurich par le chant des gibbons. Les gibbons, que ce soit dans les zoos, en tout cas en été, parce qu'en hiver ils sont à l'intérieur, et évidemment dans leur forêt naturelle, produisent des chants. On peut véritablement parler de chants et pas de cris parce qu'il s'agit de séquences sonores qui sont en quelque sorte apprises, en tout cas indéfiniment répétées par les couples. Les gibbons chantent essentiellement en duo. Le duo construit son chant et ensuite le répète, encore une fois, interminablement le matin. Il s'agit, d'après ce que disent les anthropologues, de reproduire l'esprit de la famille, donc de conforter le couple et ses progénitures. Il s'agit aussi de marquer un territoire, bien entendu.
Et à partir de ces chants, vous êtes arrivé progressivement à la musique.
Oui, et là, il faut dire que le mérite en revient à la musicienne avec laquelle j'ai collaboré, Marie Schwab, qui a produit, à partir de la répétition en boucle de la vidéo du chant du gibbon, une composition musicale dans laquelle le chant proprement dit, le chant saisi en direct, tend à disparaître progressivement et est remplacé ou réinterprété par des instruments traditionnels, retravaillés électroniquement, comme la clarinette, la guitare, la contrebasse, la voix et l'alto.
Voilà donc les gibbons du zoo de Zurich qui ont été filmés par l'artiste Guy Schibler, extrait de cette composition musicale. Guy Schibler, à votre micro, Nicolas Julliard.
Et cette musique de Marie Schwab, on peut la trouver sur un CD glissé dans le catalogue de cette exposition Bruit. La pièce dure une dizaine de minutes et on y entend des musiciens tels que la chanteuse Heike Fiedler, le clarinettiste Pierre Kaufmann, la contrebassiste Noël Raymond et le guitariste Vince von Lanten.
À découvrir donc dans le cadre de cette exposition Bruit, conçue par Visarte, avec une vingtaine d'artistes genevois, c'est à la Villa du Toit à Genève jusqu'au 22 mars.
Et je vous signale encore deux événements sonores et musicaux dans le cadre de cette exposition. Ce dimanche 8 mars à 17h avec deux conférences autour du bruit, bruit et cinéma et bruit et musique, ainsi qu'une performance du percussionniste Alexandre Babel. Et puis le jour du finissage, le dimanche 22 mars à 17h encore avec un concert d'improvisation d'après cette pièce Gibbon de Guy Schibler et Marie Schwab avec la participation des musiciens de cette création.
Merci beaucoup Nicolas Julliard. Et vous écoutez Espace 2, il est 12h56. On va rejoindre Agnès L'Éveillé au téléphone de Genève. Elle vient de suivre la conférence de presse de l'Orchestre de la Suisse romande. On va accueillir Agnès dignement avec une musique subtile. Voilà, bonjour Agnès L'Éveillé.
Bonjour Yves.
Ça vous va? J'ai envie de l'utiliser à chaque fois que vous ferez une chronique chez nous. Je trouve que ça vous colle assez bien.
Ça me colle assez bien et c'est clair que le 25-26 septembre, je serai de pied ferme au Victoria Hall de Genève pour un ciné-concert. Donc l'orchestre de la Suisse romande jouera en live la musique du premier volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, donc musique d'Howard Shore. Ce sera un projet assez, assez gigantesque qui s'étalera sur 3 ans. Donc chaque année, on verra un des 3 volets. Et ce sera Ludwig Vicky, grand spécialiste de la musique de film, qui dirigera l'OSR. C'est un projet d'ailleurs qui a beaucoup, beaucoup tourné déjà depuis 2008.
D'accord, rajeunir le public, c'est la noble tâche de l'OSR, on le sait depuis de nombreuses années. Donc Le Seigneur des Anneaux, ça sera un des grands rendez-vous. Peut-être que la prochaine étape, ça sera Harry Potter, on verra. Bref, vous sortez de la conférence de presse, Agnès L'Éveillé. Peut-être deux mots sur sur ce que vous avez appris tout à l'heure. Anya.
Alors tout à fait, oui. Et donc tout d'abord, le mot d'ordre cette année, c'est l'envolée symphonique, un orchestre rajeuni, moderne et frais. C'est un message que la direction de l'ESR a voulu faire passer tout d'abord à travers une nouvelle ville visuelle, assez choc comme ça. Sur la première affiche qui annonce la nouvelle saison, on voit Frédéric Kirsch, altiste, qui fait un bond dans les airs au-dessus du lac avec son alto. Et voilà, au fil de toute la saison, on verra d'autres musiciens de l'ESR dans des lieux emblématiques de la ville de Genève, des fois dans des poses assez décapantes. Donc voilà, une saison dynamique, rajeunie. Et c'est vrai que Florence Notaire, la présidente de l'orchestre, a rappelé au début de la conférence de presse que l'ESR veut désacraliser l'orchestre et trouver et motiver effectivement les nouveaux publics, les jeunes publics aussi, à pousser la porte du Victoria Hall et d'autres salles aussi. Mais sinon, alors au niveau du programme, c'est aussi un voyage au cœur de la vieille Europe que propose Hank Sinan, avec beaucoup de programmes qui seront consacrés au répertoire tchèque, scandinave, russe et français, évidemment, ces répertoires qui sont un peu l'historique, qui ont fait les heures de gloire au tout début de l'OSR, la musique russe et française. Il y aura un retour de la musique contemporaine, enfin un petit retour, on en entendra plus aussi, avec des œuvres de Dutilleux, Schnittke, Pascal Dussapin, Richard Dubugnon et Mathias Pincher, Pincher qui dirigera d'ailleurs l'une de ses œuvres Marais en mars 2016. Et puis alors, comme on le sait, la saison 2016-2017 aura comme particularité de ne pas avoir de directeur artistique fixe, étant donné que le prochain directeur, Jonathan Nutt, arrivera en 2016-2017. Donc il y aura beaucoup de chefs invités, avec énormément de jeunes personnalités comme Domingo Indoyan, Anthony Hermus, Jakob Rusa, jeune chef tchèque, Raphaël Payard, Ilich Rivas. Donc tout ça, ce sont des artistes qui sont nés au début des années 80. Aussi, évidemment, d'autres grands noms invités comme Mark Elder, grand chef britannique spécialisé dans les répertoires anglais et malériens, Andrew Manse, violoniste et chef alors baroque, et puis évidemment des valeurs sûres, Kazuki Yamada, Jonathan Nutt, donc futur directeur artistique qui fera un concert avec des œuvres de Dutilleux, Debussy et Dubugnon, et puis Charles Dutoit qui dirigera un très beau projet en octobre en coproduction avec l'OSR et le Grand Théâtre. Ce seront deux opéras de Ravel en version de concert, donc L'heure espagnole et L'enfant et le sortilège. Donc voilà, tout ça, ça sera un peu les feux d'artifice pour l'année prochaine. Beaucoup de projets de rencontres en public, de projets pédagogiques, de visites scolaires. En fait, voilà, il y aura comme ça différents volets, différentes nouveautés qui vont se décliner tout au long de cette nouvelle saison.
Merci beaucoup. Anya Léveillé, donc en direct de Genève, au téléphone après la conférence de presse tenue par l'Orchestre de la Suisse romande qui sera prochainement donc au Grand Théâtre de Genève à partir de dimanche pour le Requiem.
Au Victoria Hall,
merci. Merci Anya. Merci également à Sacha Unger qui a réalisé l'émission, avec Chloé Gagliardini pour l'assistance de production de Magma. Je vous souhaite